à Rencontre Spirituelle en cette dernière émission de la saison. C'est un geste que je pose à l'égard de l'Église orthodoxe. Notre sœur, la grande Église orthodoxe, c'est la vie d'une femme vraiment merveilleuse, Mère Marie Skobtsov, c'est un nom difficile à prononcer, qui est décédée en 1945. Elle a été assassinée, tuée en somme, gazée par les nazis. Cette maniale orthodoxe qui a été exécutée pour avoir sauvé des juifs. Elle était née en 1891, un 8 décembre, oui, le jour de l'Immaculée Conception. Et elle est morte le 31 mars 1945. C'est assez étrange, cette vie. Je dédie cette émission à nos amis russes qui travaillent avec nous, à Marina, à Nikolai Diouskine. Deux fois mariée, cette femme est divorcée, mère de trois enfants, une de son premier mariage, deux du deuxième. Devenue religieuse orthodoxe à 41 ans, c'est pour nous un curieux itinéraire, c'est sûr. Et pourtant, c'est une sainte, à mon avis. Elle a été victime au camp de Ravensbrück, gazée la veille de Pâques, 1945. Mère Marie Skobtsova, de son nom de jeune fille Elisabeth ou Lisa Yurievna Pilenko, est née dans une famille de propriétaires terriens au sud de la Russie, non loin là de la mer Noire. Et elle perd son père au cours de son adolescence. Sa disparition, évidemment, l'affecte profondément. Une jeune fille qui perd son père au moment de l'adolescence est tragique. Elle en arrive à refuser dans sa révolte toute foi religieuse. Elle devient complètement ennemie de la religion. Lisa poursuit de brillantes études. Elle veut en même temps se consacrer quand même au service des plus humbles et des plus pauvres. Et tout ça surgit au moment des grandes révolutions russes. La recherche du partage des richesses, un évangile sans Dieu, un évangile autoritaire, un évangile qui n'épargne personne. Le communisme est une sorte d'évangile au fond, mais c'est un évangile qui semble manquer d'âme. Mais elle y met de l'âme et elle se jette à corps perdu dans la réflexion politique qui occupe les nuits des étudiants à l'université. Alors, à 18 ans, elle épouse le président des étudiants, pas n'importe qui, n'est-ce pas, Dimitri Kouzmin Karavaev. Elle l'épouse plus par pitié que par amour. Et là, ils auront une fille. Et qui va mourir beaucoup plus tard, ça lui fera un chagrin terrible d'ailleurs. Elle fréquente alors les cercles littéraires d'avant-garde de Saint-Pétersbourg. Elle fait la connaissance du fameux Berdiaev, dont je vous parlerai un jour. Et Lisa, se sépare finalement de son mari. Qu'est-ce que son pauvre mari va devenir devant elle? Elle l'a épousé par pitié. Bien, c'est curieux. Son mari va se convertir, entendons-nous, c'est pas vraiment une conversion. Il se fait catholique. Je crois pas qu'un orthodoxe se convertit au catholicisme ou vice-versa. C'est un passage. Ce sont deux églises sœurs. Ce sont les deux poumons, les deux grands poumons du christianisme. C'est comme deux sœurs presque jumelles. Hein? Alors disons qu'il se convertit, entre guillemets, au catholicisme. Il adhère donc au catholicisme, disons. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir jésuite, absolument extraordinaire. Quant à elle, Lisa, elle rejoint le Parti socialiste révolutionnaire. Mais c'est moins par conviction que pour être réellement au service du peuple. Mais la victoire des bolcheviks en 1917, vous êtes au courant de ça, n'est-ce pas, élimine les socialistes modérés. Alors, en février de l'année suivante, 1918, à 27 ans, Lisa devient la première femme maire de sa ville natale d'Anapa. Le partage du pouvoir avec le soviet local, c'est pas des plus faciles pour elle. Et elle se retrouve tout à coup devant un tribunal de l'armée blanche. Elle se défend si bien, assez curieux, qu'elle épouse quelques semaines plus tard le président du tribunal, Daniil Skoptsov, d'où son nom de Skoptsova. Marie Skoptsova, que l'on appellera Mère Marie plus tard. Elle va en avoir un garçon, Yuri, et une deuxième fille, Anastasia. Quelle vie étonnante, hein? Pour une future moniale et une sainte. J'avais Saint Augustin a bien eu un fils avec la femme avec laquelle il a vécu longtemps. La famille décide donc de quitter la Russie et s'installe en France en 1922. Elle a 31 ans. Or, les immigrés russes vivent alors dans la plus grande pauvreté. Même s'ils sont d'origine noble souvent, parce qu'il y a eu beaucoup de nobles qui se sont sauvés. Lisa, elle fait des travaux de broderie. Elle en fera jusqu'à sa mort, même au camp de Ravensbrück. Elle fait des travaux de broderie et son mari, Daniil, finit par trouver un emploi de chauffeur de taxi, comme on fait si souvent les Russes à Paris. Mais le second mariage n'est pas plus heureux que le premier. Et les pauvres époux se séparent au moment même où meurt Anastasia, la fille cadette de Lisa, en mars 1926, à l'âge de 4 ans. La longue agonie de la petite Nastia, c'est pour sa mère, de son propre aveu, une visitation du Seigneur. Une visitation du Seigneur. Vous voyez déjà la foi extraordinaire, elle se sent visitée par le Seigneur dans cette épreuve, dans cette agonie de son enfant. Et elle retrouve la foi en Dieu. La foi, oui, la foi en l'amour mutuel qui permet seule de comprendre puis d'accepter la mort. Elle se décide à suivre le seul compagnon. Oui, le seul compagnon qui conduit à l'éternité, celui qui porte la croix, Jésus de Nazareth. Et dès lors, Lisa a trouvé sa vocation. Elle va se consacrer au mouvement chrétien des étudiants russes orthodoxes. En fait, le mouvement s'occupe des étudiants, mais aussi des immigrés russes qui travaillent dans les usines de la banlieue parisienne, dans les mines et les aciéries du nord et de l'est de la France. C'est un travail épouvantable que de travailler dans une aciérie. Vous avez déjà vu ça, surtout à cette époque. On voit ça parfois à la télévision, sur de vieux films. Et beaucoup ont sombré dans l'alcool et la drogue, hein, déjà à cette époque, oui. Et c'est à leur service que Lisa Skoptsova se sent appelée. Elle écrit souvent des poèmes. Voici 3 lignes. Va vivre au milieu des vagabonds et des pauvres. Entre eux et toi, entre le monde et moi, noue un lien que rien ne pourra rompre. Alors les ivrognes, les désespérés, les miséreux mobilisent toute son attention maternelle. Car, dit-elle, ils n'ont pas besoin de sermon, mais de la chose la plus fondamentale de toutes, la compassion. Elle continue à composer des poèmes qui éclairent le sens qu'elle donne à sa vie. Voici l'un des plus beaux qui est intitulé « Consoler ». Que m'importe l'intelligence habile, que m'importe les mots des livres, lorsque partout je vois la face morte du désespoir, de la nostalgie, du suicide. Ô Dieu, pourquoi n'est-il pas de refuge? Pourquoi tant d'abonnés et d'abandonnés et d'orphelins? Pourquoi l'errance de ton peuple amer dans l'immense, l'éternel désert du monde? Je ne veux connaître que la joie de donner. Ô, consoler de tout son être la douleur du monde. Ô, que le feu, le cri des aurores saignantes, soit noyé dans les larmes de compassion. En voici un autre dans lequel Lisa Skoptsova exprime, comme elle dit, la pulsation de la totalité, c'est le titre. À chacun, je voudrais donner mon âme pour que mangent les affamés, pour qu'ils soient couverts. Oui, les nus, que les assoiffés se désaltèrent et que les sourds entendent la nouvelle. Depuis le ciel tonnant jusqu'au murmure de la brise, tout commande, donne jusqu'au dernier sou. De la plénitude grave d'une expérience sacrée, mon âme est pleine à déborder. Et j'ai oublié, s'il y a parmi la multitude ce que tous appellent « moi », il n'y a que pleinement d'amour et pauvreté et pulsation de la totalité. Nous allons maintenant entendre un disque intitulé ainsi « Aurore chante la traversée du désert ». Et nous allons écouter Razboïnika, il s'agit du bon larron, tu as accueilli, Seigneur, dans ton paradis le bon larron, eh bien, accueille-nous. Razboïnika. Alors, comme ils ont obtenu la séparation conjugale autorisée par l'Église orthodoxe en mars 1932, eh bien, Lisa fait le même mois sa profession monastique en l'Église de l'Institut Saint-Serge à Paris. Vous savez probablement ce que c'est, l'Institut Saint-Serge. Disons que c'est comme l'Institut catholique. C'est l'Institut orthodoxe, c'est l'Université orthodoxe des Russes orthodoxes à Paris. C'est très important, l'Institut Saint-Serge. Le métropolite Euloge lui donne un nouveau nom, Marie, Mais ce n'est pas en mémoire de la mère de Jésus. C'est en mémoire de Sainte Marie d'Égypte qui fêtait le 2 avril. Ça me rappelle ce roman qu'André Chédid, une bonne amie, écrivain, elle m'avait envoyé un livre qu'elle a publié, Les Marches de Sable, paru chez Flammarion. C'est le récit de trois femmes qui vivent un peu comme Sainte Marie d'Égypte dans le désert. C'est une longue réflexion sur le monde et le désert, sur la vie monastique, quoi, d'André E. Chédid. Et comme Marie d'Égypte, ou Marie l'Égyptienne, comme on dit souvent dans l'Église catholique, qui a vécu une vie de pénitence dans le désert, le métropolite est là, je lui dis, allez agir et parler dans le désert des cœurs humains. C'est très beau, hein? Aller agir et parler dans le désert des cœurs humains. C'est ce que j'essaie de faire dans ces émissions depuis plus de 3 ans. Hier, je suis allé donner une conférence à Longueuil, et j'étais tellement touché de la gentillesse des gens qui m'écoutent souvent le matin et le soir, 10 heures le matin, 10 heures le soir, toutes sortes de gens. J'étais tellement touché, bouleversé par cette bonté des gens de Longueuil, de la cathédrale de Longueuil. Le monastère de Mère Marie sera donc en plein monde, à Paris, au plus près de la souffrance des hommes. C'est par la blessure du monde qu'elle va aller à Dieu. Et tel est son chemin. C'est le chemin de sa foi orthodoxe, à l'école de celui qui est crucifié, à l'école des pères de l'Église. Elle l'a exprimé dans l'article qu'elle a rédigé, elle a beaucoup écrit, hein, sur le second commandement de l'Évangile. C'est très beau, ce texte. Je vous en lirai un passage tout à l'heure. C'est à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Bon, je vous en lis tout de suite un passage. Témoignons donc de l'amour de ce pauvre. En réalité, sous cette apparence, il n'est autre que le roi céleste, qui ne gaspillera pas nos dons, mais nous les rendra au centuple. Non, le pauvre, le malheureux, est bien réellement lui-même, dans la réalité de sa pauvreté et de sa misère, et bien réellement aussi, le Christ est présent en lui et souffre en lui. Nous accueillons le pauvre au nom même de l'amour du Christ. Non parce que nous obtiendrons ainsi une récompense, mais parce que l'amour sacrificiel du Christ nous embrasse. C'est parce que nous nous unissons au Christ dans cet amour, au Christ dans sa souffrance sur la croix. Et nous souffrons non pas pour notre purification et notre salut, mais bien réellement pour l'autre, pour le pauvre, le malheureux, pour que nos souffrances allègent les siennes. Ce n'est pas en son propre nom que l'on peut aimer sacrificiellement, c'est uniquement au nom du Christ, au nom de l'image de Dieu qui se révèle à nous dans l'homme. En septembre 1934, Mère Marie s'installe au 77 de la rue de Lourmel, à Paris, dans une maison à la dimension de sa charité, proche de là où se sont implantés beaucoup d'émigrés russes. Et cette maison-là va devenir vite hôtel, cantine. Imaginez, 2300 repas sont servis pour la seule année 1935 par cette femme. C'est un lieu de réunion et de rencontre. Un groupe d'orthodoxes, soucieux d'engagement social, fonde en 1935 l'Action orthodoxe, dont Mère Marie est la première présidente. Il s'agit toujours de servir l'homme et la femme comme image et ressemblance de Dieu, temple du Saint-Esprit, icône incorruptible de Dieu. Et la maison de Mère Marie est aussi un haut lieu intellectuel et spirituel. Nicolas Berdiaev y donne des conférences. Et aussi le fameux Serge Bulgakov, le père Serge Bulgakov, qui est l'ami et le confesseur de Mère Marie. En 1936, Marie apprend la mort à 23 ans de sa fille aînée, Gayana. Et Gayana avait subi l'influence d'André Gide qui disait qu'en Russie c'était magnifique, c'était très très beau. Pauvre André Gide aveugle, qui n'écoutait rien de ce qu'on disait dans les milieux chrétiens. Alors sous l'influence d'André Gide, Gayana était retournée en Russie où elle est morte à 23 ans. Et Mère Marie écrit dans une méditation intitulée « Naissance à travers la mort » des choses admirables, et en voici un extrait. « J'attends la résurrection et la vie du monde à venir. Ou j'attends la résurrection de mes bien-aimés qui sont déjà nés pour l'éternité. J'attends la naissance pour l'éternité de toute l'humanité, de ceux qui sont morts et de ceux qui sont encore à naître. » Je suis prêt à payer de la mort de mon corps terrestre et de l'agonie de mon âme attachée à la terre cette vie éternelle. J'accepte avec joie ces douleurs d'enfantement et je me soumets à la loi. Il nous faut, à travers les peines, les souffrances et les larmes, naître à la vie éternelle, retourner à la maison du Père, afin de demeurer avec lui et avec ceux qui ont déjà passé par cet enfantement douloureux. Ma théodicée est simple, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. En cette foi, je meurs à la vie du monde présent. Mais survient la Seconde Guerre mondiale. Et Mère Marie juge très sévèrement Hitler. Elle voit en lui un fou, un paranoïaque. Et dès que les Juifs sont menacés, elle met tout en œuvre pour les protéger. Elle en cache des dizaines à la rue de l'Ourmel ou à Noisy. Un poème nous a gardé la trace de cette action. Il est intitulé « L'étoile jaune ». Mais la traduction ne rend pas justice au texte qui devait être, j'imagine, en russe. Deux triangles, une étoile, le blason de l'ancêtre David. C'est élection, non pas offense. Un grand don, non pas un malheur. Israël, tu es persécuté à nouveau, mais qu'importe la haine des hommes si dans l'orage sur Sion, Elohim à nouveau répond. Et je dois la connaissance de cette moniale en grande partie au père Stéphane Bigam, un bon ami depuis bien longtemps qui habite Saint-Eustache avec sa famille, il est prêtre orthodoxe, et il m'a prêté son livre « Le sacrement du frère », c'est Mère Marie, c'est sa vie et des textes d'elle. Et ce livre est paru en Suisse dans une maison d'édition, Le Sel de la Terre, peu connue, mais qui édite de beaux livres orthodoxes. Et au début, Olivier Clément, ce grand théologien laïque orthodoxe, qui enseigne justement à l'Institut Saint-Serge, dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai bien connu, c'est un ami, je suis souvent allé chez lui, je l'aime beaucoup. Si vous saviez comme ces orthodoxes sont attachants par leur sens prophétique, leur âme brûlante, hein, c'est pourquoi j'aime beaucoup Olivier Clément. Il écrit « Au-delà de nos peurs et de nos divisions, Mère Marie nous appelle, dans la diversité des charismes, à la totalité de l'amour, à un amour qui ne néglige pas le conditionnement matériel et social de l'homme. Mère Marie, qui ne prêchait pas, mais aimait, n'a jamais oublié que seul vaut ce qui, dans la liberté et la communion, rend l'homme plus ressemblant à l'image de Dieu en lui. Il y a là pour l'avenir de l'orthodoxie un témoignage prophétique. Et il ajoute quelque chose de merveilleux. prophétique. Le destin de Mère Marie l'est aussi pour les relations mystérieuses de l'Église et du peuple juif. Pour Mère Marie, le fait que les chrétiens acceptent volontairement de souffrir et de mourir pour et avec les juifs hâtait le moment eschatologique où le vieil Israël reconnaîtrait son Messie dans le crucifié. Ça rappelle ce juif dont je vous ai parlé hier, le docteur Goldblatt, qui reconnaissait dans le Christ sur le linceul de Turin le Messie tant attendu, le Messie ressuscité. Et Olivier Clément ajoute, interrogé par un policier allemand sur l'aide qu'il apportait aux Juifs, le père Dimitri Klipinin, très illustre, compagnon de service de Mère Marie, lui répondit doucement en montrant la croix qu'il portait sur sa soutane, « Et ce Juif-là, vous le connaissez ?» Je trouve cette anecdote admirable. Nous oublions souvent que Jésus était Juif. Alors le tour de Mère Marie Skoptsova est bientôt arrivé pour se faire arrêter. Les SS font irruption à la rue de Lourmel le 8 février 1943. Alors ils ne trouvent pas Marie. Alors ils embarquent son fils, Yuri, et le prêtre Klipinin, dont je viens de mentionner l'anecdote. Et Mère Marie suivra. À Romainville, puis à Compiègne, c'est près de là que vit Jean Vanier, enfin au camp de concentration de Ravensbrück. Des 10 000 femmes françaises internées dans ce camp, seulement 2 000 reviendront. Savez-vous que c'est là que fut enfermé aussi André Frossard, qui a écrit un livre intéressant sur son séjour à Ravensbrück, son emprisonnement, quoi. Mère Marie continue avec le même zèle sa mission chrétienne de service et de compassion, et peu de temps avant son arrestation, elle avait écrit « Je suis ton message, Seigneur. Jette-moi comme une torche enflammée dans la nuit, de sorte que tous puissent voir et comprendre ce que signifie être ton disciple. » J'ai le goût de répéter ça, c'est si beau. J'ai rarement entendu une chose aussi belle de ma vie. Je suis ton message, Seigneur. Jette-moi comme une torche enflammée dans la nuit, de sorte que tous puissent voir et comprendre ce que signifie être ton disciple. Mère Marie était devenue le prisonnier numéro 19263, assigné au bloc 27. Mais la force de sa foi, ça donnait courage à toutes ses compagnes. Une rescapée raconte, eh bien le soir, rassemblée autour de son misérable grabat, nous l'écoutions. Elle nous parlait de son travail à Paris, de l'espoir de voir se réaliser l'union entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Ses paroles nous rendaient courage quand nous défaillons sous le poids sans cesse croissant de la terreur. Que ça doit être épouvantable d'être enfermé dans ces camps, ça doit être effrayant. Elle entourait, Mère Marie, d'une particulière affection les jeunes femmes russes du bloc 31 auxquelles elle pouvait parler dans sa langue maternelle. Pourtant, les épouvantables conditions de détention ont eu raison de sa constitution qui était quand même robuste. Elle avait de plus en plus de difficultés à marcher. Puis elle était tenaillée par la souffrance, même si jamais, jamais, jamais elle ne se plaignait. Personne ne connaît exactement les dernières heures de Mère Marie. Selon une première version, elle n'a pas pu accomplir les tests physiques de marche qui étaient exigés. Elle a donc été condamnée à mort. Et selon une autre version, elle a pris la place d'une détenue qui allait être gazée. Tout ce que l'on sait, c'est que la Croix-Rouge a pu entrer dans le camp de Ravensbrück le dimanche de Pâques 1945. Il était trop tard pour Mère Marie. Voici un autre de ses poèmes. C'est le livre de la vie. Oh, tout est pressentiment du temps marqué, tout est ferveur qui prélude. Sur les marchés de la terre, nous aurons fini nos affaires, et ce sera l'éveil, soupir et cri. Toi, soleil de l'éternité, aurore pourpre, le froid d'avant l'aube transit l'âme. La nuit s'achève, les âmes se libèrent des rêves moites du matin. Plus de rêves, la réalité se dépouille, simple, les bras de la croix. Dernier signe de la dernière page, et le livre de la vie se ferme sur l'éternité. Vous savez, Mère Marie va marquer profondément ceux qui ont été au camp avec elle, au camp de concentration, parce qu'elle avait le don du contact direct, une expérience de tous les milieux. Et dans ses conversations, elle s'est toujours écoutée, elle va à l'essentiel. Elle redonne courage au cœur de l'épreuve. Elle sent ce dont son interlocuteur a le plus besoin au moment présent. Et ses co-détenus au camp de concentration de Ravensbrück l'ont bien dit. Mère Marie a l'art de transformer les aspects les plus répugnants de la captivité en occasion de consolation et d'édification. Toute cette horreur devient l'expression de sa vision du monde et de sa foi. Alors que les cheminées du four crématoire, qui crachent jour et nuit la fumée des corps brûlés, sont pour les prisonnières les plus endurcies un spectacle épouvantable et une véritable hantise, elle déclare, Mère Marie, « Cette fumée n'est sinistre qu'au sortir de la cheminée, car regardez-la s'élever, voyez comme en montant, elle se transforme en un nuage léger, immatériel. » Un nuage qui se dissipe dans l'espace infini. Ainsi font nos âmes, qui s'arrachent à cette terre de péché, et après un vol léger sont aspirées pour l'éternité, pour une nouvelle vie de bonheur. Un jour, au cours d'un appel interminable, Mère Marie est surprise à causer avec sa voisine. Alors la gardienne, une femme SS, une femme terrible, la frappe violemment au visage, avec sa trique. Mère Marie, imperturbable, écoutez bien, achève tranquillement sa phrase comme si cette femme SS n'existait pas. C'est sa manière, ostentatoire peut-être, de résister au mal. Ça rappelle un épisode du premier cercle de Solzhenitsyn, ça se lisait beaucoup il y a quelques années, lorsqu'un détenu déclare au chef de police... Écoutez bien, ça c'est superbe ce que Solzhenitsyn écrit et rapporte. Vous êtes puissant tant que vous n'enlevez pas tout à vos prisonniers, mais quand ils n'ont plus rien, ils sont libres à nouveau et vous ne pouvez rien contre eux. Mère Marie est employée au tricotage des chaussettes destinées à l'armée allemande. Elle en profite pour dérober, je n'ose pas dire voler, elle dérobe du fil pour broder des petits mouchoirs qu'elle offre à ses amis. Ou bien elle les échange, ces petits mouchoirs, contre du pain. La vie dans les camps, c'est la faim. Hein? Le froid, la vermine, qui ronge et qui finissent par épuiser les gens les plus robustes. Mère Marie n'y échappe pas, mais elle résiste. Elle est minée par la dysenterie. La diarrhée, c'est effrayant. Et elle trouve... cependant, la force de soutenir le moral de ses compagnes. Et pour fêter le débarquement des Alliés en Normandie, bien, elle brode un foulard avec de la soie subtilisée par une équipe qui travaille aux câbleries Siemens. Et cette broderie est étonnante de fraîcheur. Il y a une reproduction dans le livre. Elle s'inspire de la tapisserie de Bayeux. Vous savez, la grande tapisserie de Bayeux en Normandie. Elle comporte des vers en anglais sur l'exploit des valeureux soldats. Elle sera d'ailleurs, cette broderie, miraculeusement préservée par sa destinataire. C'est une autre destinée qui s'appelle Rosanne Lascroux. Mais le mal poursuit son œuvre. Sa fin approche. Mère Marie demande à une amie d'apprendre par cœur son message au père Serge Bulgakov, son directeur, et à sa famille. Le message, c'est celui-ci. Voici mon état présent. Je me soumets totalement à la souffrance et à ce qui doit m'arriver. Si je meurs, j'y verrai une bénédiction d'en haut. Ma seule inquiétude, c'est de laisser ma vieille mère. Savez, ces textes-là, ça rejoint Saint Ignace d'Antioche au tout début de l'Église. L'émission va repasser cet été. C'est tellement beau. Ces orthodoxes, ces catholiques qui meurent comme ça, avec les mêmes sentiments que les premiers chrétiens. Au début de 1945, la guerre touche à sa fin. Dans les camps où les fours crématoires continuent à cracher leur fumée, on entend déjà les canons de l'armée rouge et les Allemands deviennent de plus en plus nerveux. Alors Mère Marie est sélectionnée pour le Jugendlager, voisin, un ancien camp pour la jeunesse hitlérienne. Là, les rations sont tellement réduites qu'on y meurt presque aussitôt. Alors, à la grande surprise de ses compagnes, elle en revient, imaginez, mais elle a atteint l'extrême limite de ses forces. Elle tient à peine debout. Et avec la complicité d'une gardienne, Christina, une gardienne allemande, mais qui a du cœur. Car il y avait chez ces gens-là des hommes de cœur, des femmes de cœur qui étaient pris dans le système. Faut pas oublier ça, dans la dictature, c'est terrible. Alors avec la complicité d'une gardienne qui heureusement s'appelle Christina, beau nom, et qui admire Mère Marie en secret, bien, ses compagnes réussissent de temps en temps à la cacher sous une paillasse pour lui éviter l'appel. Le plus souvent, Mère Marie est couchée, les yeux fermés, l'air grave. Alors un jour de mars 1945, les nazis procèdent à une dernière sélection, comme je vous l'ai insinué tout à l'heure. Que s'est-il passé exactement? Je vous l'ai dit, c'est difficile à dire. Les témoignages divergent. Pour les uns, Mère Marie aurait pris la place, comme Saint-Maximilien Kolbe, d'une femme terrorisée à l'idée d'être conduite au Jugendlager. Pour d'autres, touchées par leur panique et désireuses de les réconforter, elles se seraient approchées de quelque 260 détenus choisis pour le Jugendlager. Et les SS lui auraient alors pris son matricule, arraché ses lunettes. Il l'aurait embarqué avec le groupe. Et c'est Jacqueline Perry qui écrit « Il est tout à fait plausible que Mère Marie se soit jointe aux sélectionnés. C'est pleinement conforme à son esprit d'abnégation. En se portant volontairement en sacrifice, elle aidait chacune d'entre nous à accepter sa croix. » Quelque temps plus tard, le 31 mars, la gardienne Christina voit sur la liste des femmes gazées, ce jour-là, le nom d'Elisabeth Skopstov. Matricule 19263. Mère Marie était entrée dans la paix du Seigneur la veille de Pâques. Chacun mérite, c'est Geneviève de Gaulle qui cite le poète allemand, le Rainer Maria Rilke. Il faudrait bien que je vous parle, Rilke, que j'aime beaucoup. Chacun mérite sa propre mort. Et Geneviève de Gaulle ajoute, il y a des morts glorieuses, des morts tranquilles, celle de Mère Marie, qui avait tout donné d'elle-même aux autres, fut une mort humiliée, dépouillée, semblable à celle de son maître supplicié. Ô mort, non, je ne t'ai pas aimé, toi. J'ai aimé ce qui est vivant en ce monde, l'éternité. Écoutez bien ce qui suit. C'est une fabuleuse coïncidence ou un signe de la Providence. Il y a une autre religieuse au camp de Ravensbrück qui s'appelle Elisabeth Rivet, une catholique cette fois-ci, supérieure de la congrégation de Notre-Dame de la Compassion, compassion qui était si chère à Mère Marie, à Lyon. Elle est morte à Ravensbrück dans les mêmes conditions que Mère Marie, en se sacrifiant pour une autre. Et Lucille était arrêtée pour avoir aidé des résistants. Elle a été gazée le 30 mai 1945. C'est en 1961 que la France a fait paraître un timbre à son effigie. On la voit sur le timbre cerclé de lunettes, n'est-ce pas, son visage qui ressemble étrangement à celui de Mère Marie. Et c'est curieux, elles ont le même prénom toutes les deux, Elisabeth, au baptême. Deux religieuses, l'une russe, l'autre française, l'une orthodoxe, l'autre catholique, qui se sont unies dans un même destin mystique. Après la guerre, le père Lev Gillet va écrire à Elisabeth Bersigel. Elisabeth Bersigel est déjà passée à l'émission Rencontre à la télévision, nous l'avions interviewée. Et ce père Gillet survit difficilement à la mort de ses amis. Il écrit « J'ai parlé à Londres de Mère Marie. La blessure en moi reste ouverte parce que Mère Marie, cette sainte orthodoxe moderne, restera toujours une vivante et une messagère de vie. Et toute la trajectoire de la vie de Mère Marie témoigne de la splendeur de la vie donnée. Le monachisme pour Mère Marie, c'est une forme de don suprême. Elle a écrit une pièce en vers, Anna, une sorte de mystère médiéval, où on voit deux religieuses, Paula et Anna, qui représentent des vocations différentes. En effet, Paula déclare, le moine doit oublier le monde et ses laideurs, rechercher la paix intérieure et prier en respectant scrupuleusement la sainte règle. Mais l'autre, Anna, qui a donné son nom à la pièce de Mère Marie, dit, le monastère, c'est le monde. Le moine est une pelle dans les mains du divin jardinier. Le moine est appelé à donner sa vie pour sauver son prochain. Mise en demeure par son évêque d'assumer sa vocation, la moniale Anna, dans la pièce de théâtre, accepte de se charger des péchés d'un damné, une sorte de Faust, qui a passé un pacte avec le diable. Mourir pour ses péchés qu'elle n'a pas commis, et pour elle, la forme la plus élevée de la charité. D'ailleurs, en relisant les vers de Mère Marie, puis en regardant ses dessins dans les marges d'un recueil de poèmes, on est frappé par une chose. Ça revient toujours. C'est comme une obsession. L'idée qu'elle mourra dans les flammes, et deux fois, elle dessine une longue cheminée qui crache sa fumée. Elle disait à sa mère, c'est sa mère plutôt qui disait, toute petite, elle était sûre qu'elle serait brûlée. Il y a même 7 ans avant sa mort, le 17 juillet 1938 exactement, elle écrit un poème qui s'appelle « Le bûcher ». Je vous le lis. « Je sais, le bûcher s'allumera de la calme main d'une sœur, et mes frères iront chercher du bois et même les plus doux. Ils diront de cruelles paroles. Mon bûcher brûlera, cantique de mes sœurs. Paisible battement des cloches au Kremlin, sur la place des exécutions, ou bien ici, sur une terre étrangère, partout où il y a des gens pieux. Des branches mortes montent une mince fumée, le feu apparaît à mes pieds, le chant funèbre devient plus fort. Mais la ténèbre n'est pas mort, ni vide. En elle se dessine la croix. C'est le père Serge Haquel qui conclut le dernier chapitre d'un livre qu'il a écrit sur Mère Marie en disant « Afin de fertiliser le terrain descendant vers le lac, l'administration du camp y répandait les cendres des suppliciés, dont celle de Mère Marie. Et bien longtemps auparavant, celle-ci avait écrit « Seigneur, ce n'est pas moi, c'est une poignée de cendres, c'est le cercueil de mes passions et de mes désirs. » Et les nazis ne pouvaient comprendre qu'une vie comme celle de Mère Marie puisse féconder, enrichir et bonifier l'univers sur un tout autre plan. L'un de ses amis, le poète Georges Raevski, a eu la confirmation de son immortalité quelques années plus tard. C'est assez spécial. Il a vu en rêve Mère Marie traversant un champ au milieu des épis, de sa démarche familière et tranquille. Alors il se précipite vers elle et il lui dit « Mère Marie, Mère Marie !» Mais on m'a dit que vous étiez morte. Et elle de répondre avec son regard par-dessus ses lunettes, plein de bonté puis de malice. Oh, si on devait croire tout ce que les gens disent, vous voyez bien que je suis vivante. Oui, vous voyez bien que je suis vivante. Il y a 3 dimensions à reconnaître qui illumine nos vies, les 3 dimensions ordinaires, on les connaît. Il y a une 4e dimension, dit-elle, qui pourrait être la plus importante, parce que cette 4e dimension, la vraie, illumine les 3 autres et leur donne un sens. Si on ne vit pas dans cette autre dimension qui nous plonge dans l'invisible, en Dieu, dans le cœur de Dieu, nous sommes perdus. Perdus, nos vies sont perdues dans ce temps-là. Il y a de tels beaux textes de Mère Marie. Elle dit à un moment donné, que signifie donner son âme pour ses amis? Quelle est la mesure suprême de l'amour sacrificiel? Au-delà des indications particulières de l'Évangile, c'est l'œuvre entière du Christ sur la terre qui nous donne la réponse. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.